autorités juives ont trouvé, elles, le moyen d'accuser Paul de trouble à l'ordre public parce qu'il annonçait en Jésus un roi qui n'était pas César. Et ça, Rome ne pouvait pas le prendre à la légère. Il faut dire que Rome, c'était quand même une civilisation très avancée pour l'époque. Son empire s'étendait du nord de l'Angleterre au désert d'Arabie, du détroit de Gibraltar à la mer Noire. Les dieux de Rome étaient partout, à tous les coins de rue. Avec quelques variants locaux, une seule loi, une seule administration gouvernait l'ensemble de l'Empire. Rome avait réussi à assimiler la richesse de l'Égypte et l'énorme héritage intellectuel de la Grèce. Les maisons des riches avaient le tout à l'égout et même le chauffage au sol. 2000 ans après, des routes et des théâtres romains servent encore. Et donc, face à l'immensité de Rome, un bonhomme, prisonnier. Ah, il n'est pas tout à fait seul, hein. Il y a quelques amis qui l'accompagnent, par-ci, par-là, se retrouvent des églises qui prient pour lui. Sur les terres de ses ancêtres, de nombreux juifs suivent Jésus-Christ, comme lui. Mais face à Rome, ces chrétiens juifs, ces quelques chrétiens grecs, sont une infime minorité, souvent méprisés, parfois persécutés, la plupart du temps ignorés, un groupuscule. Mais voilà que Paul ne se voit pas comme un quidam. Il débute sa lettre aux Éphésiens par ces mots-là. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas le chef d'un petit groupuscule qui écrit. Hein. Ça, c'est l'apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire un envoyé officiel, un ambassadeur, un porte-parole de Jésus-Christ. Ouais, mais Jésus-Christ, il était mort, non? Depuis le fond de son tombeau, il ne pouvait envoyer personne. Sauf qu'il est ressuscité, qu'il s'est montré vivant à Paul et à tant d'autres. Sauf qu'il a bouleversé toutes les certitudes d'un juif ultra-orthodoxe et qu'il l'a envoyé en mission dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, c'est pas rien. Apôtre de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'écoute aujourd'hui. Parce que franchement, si Paul avait été un quidam moyen, aujourd'hui, 2000 ans après, on ne l'écouterait plus. Ce que les chrétiens disent, c'est que nous l'écoutons aujourd'hui parce qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Et puis les destinataires de la lettre ne sont pas n'importe qui non plus. Si vous avez une Bible, ce que je vous souhaite, sinon venez me voir. Si vous avez une Bible avec des notes de bas de page en bas, vous avez probablement compris que ce n'est pas seulement à l'église d'Éphèse que Paul écrit, mais il écrit aux chrétiens et aux chrétiennes de toute la région. Ce sont grosso modo les églises qui sont mentionnées au début de l'Apocalypse, vous savez, les lettres aux sept églises. C'est ces églises-là à qui Paul écrit, pas juste à une église en particulier. Et voilà que ces croyants, ces croyantes ont un statut particulier. Dans les traductions traditionnelles, ils sont appelés saints, elles sont appelées saintes. Ce qui peut donner l'impression, en français moderne, que ce sont là des gens d'une piété exceptionnelle. Un saint homme, une sainte femme. mais dans tout le Nouveau Testament. Tous les chrétiens, toutes les chrétiennes sont appelés des saints, des saintes. Même ceux qui sont loin du compte. Les traductions qui sont attentives à l'évolution de la langue française rendent des fois un peu mieux le sens en mettant par exemple à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ou à ceux qui font partie du peuple saint ou encore à ceux et celles qui appartiennent à Dieu. Les objets du culte dans l'Ancien Testament étaient décrits comme saints. Pourquoi ils étaient décrits comme saints, les objets du culte ? Parce qu'ils étaient réservés à Dieu. Parce qu'on faisait pas n'importe quoi avec. Parce que leur usage, leur raison d'être, leur raison de vivre, même comme objet, était d'être destiné à Dieu. Et ici, Paul souligne le fait que les chrétiens et les chrétiennes appartiennent à Dieu, qu'ils sont destinés au culte de Dieu. Vous ne perdez pas votre temps en étant là ce matin. Et le culte de Dieu ne se limite pas à l'heure, l'heure et quart, l'heure et demie, pardon, président, que nous allons passer ensemble. Destinés à Dieu. Je ne sais pas comment vous vous voyez. Je sais que des fois, quand je me regarde, je me fais pitié. Mais je veux recevoir le regard de Dieu sur moi. Et j'aimerais que nous le recevions ensemble. Pour Dieu, nous sommes des saints et des saintes. Pas des gens arrivés, pas des gens parfaits. Plutôt des gens brisés, compliqués, qui se viandent régulièrement. Mais pour lui, des saints et des saintes. Destiné à son service, destiné à sa louange, destiné à sa gloire. Mes amis, quel que soit le regard que vous portez sur vous, pour Dieu, et c'est là le regard le plus important, vous êtes un saint, vous êtes une sainte, destinée à Dieu. Un peuple qui lui est réservé, au cœur de notre culture. Alors que tout le monde nous ignore ou nous moque la plupart du temps, nous avons un statut à nul autre pareil. Des saints et des saintes. Quel groupuscule, hein ? Quel groupuscule. Et puis il y a cette prière. À Dieu soit la gloire dans l'Église. Voilà un homme donc qui est prisonnier à Rome, et qui écrit à des églises ultra-minoritaires. Et il parle de l'importance de l'Église, de sa place dans le dessein de Dieu, une place qui transcende les générations et qui dure pour l'éternité. C'est pas rien. À Dieu soit la gloire dans l'Église. Est-ce qu'elle est si importante que ça, l'Église ? Puis pourquoi elle serait importante ? Puis comment elle serait importante ? Puis qu'est-ce qu'on fait avec cette multitude d'églises que nous connaissons aujourd'hui ? Le mot « Église », il n'apparaît que deux fois dans les évangiles. Pas beaucoup, hein ? Et chaque fois, bah, c'est Jésus qui l'utilise. Ah, voilà. Là, ça met les trucs en perspective. Le mot, il se rencontre fréquemment dans les actes des apôtres. Et puis alors, dans les épîtres, c'est saturé. La plupart du temps, ce mot « église » désigne une communauté locale, comme nous. L'église évangélique de Jérusalem, de Philippe, d'Éphèse, de Mérin. L'église qui est à Colosse, l'église qui est à Laodicée, les églises qui sont à Rome, les églises qui sont à Éphèse. Pour Jésus, dans Matthieu 18, il y a certaines choses qui ne doivent être dites qu'à l'Église. Là où deux ou trois, ou un peu plus, sont réunis en son nom. Cela ne concerne donc pas le monde entier, mais ça concerne une communauté locale. Des trucs doivent être dits à une communauté locale. Et puis, de temps en temps, le mot « Église », eh ben, ça désigne quelque chose de beaucoup plus vaste que l'Église locale. Comme ici. à Dieu soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. C'est de cette Église-là que Jésus-Christ a parlé la deuxième fois qu'il a parlé d'Église, quand il dit « Pierre, Pierre, tu es Pierre ». Ah, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Ce n'était pas une église locale qui était visée, c'était la grande église qui appartient à Jésus-Christ. Et ce que je veux souligner ici, c'est le statut éternel, invincible de l'Église. La perspective de Jésus, ce n'est pas d'abord 36 000 églises locales, c'est d'abord une église, une seule église, une église universelle. Et selon l'Épître aux Éphésiens, cette Église-là, elle a une tête. C'est Jésus-Christ. Elle a un fondement. C'est l'enseignement des apôtres qui sont les prophètes de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on les écoute. Elle est comparée, l'Église, à un corps dont Christ est la tête. Elle est comparée, cette Église, à une fiancée, à une future épouse qui se fait resplendissante pour celui que son cœur aime. Et je lis là dans l'Épître aux Éphésiens, « Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par un bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu, irréprochable et pure. » Vous voyez à quel point l'Église, elle est importante pour Dieu ? Christ s'est donné pour elle, pour qu'elle soit irréprochable devant Dieu. Cette Église grande et belle, elle se voit concrètement dans des communautés locales, aussi imparfaites soient-elles. Ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il faut que le monde voie cet amour. Sinon, il est en droit de se dire que nous n'appartenons pas à Christ, que nous sommes des hypocrites, des menteurs, des tricheurs. Il a le droit de se dire ça. Tous les chrétiens devraient donc, à mon sens, avoir de l'Église une idée haute et noble. Mais dans la pratique, les erreurs et les malentendus sont nombreux. Et je vais essayer de voir pourquoi très rapidement. Erreur et malentendu. J'en cite que deux pour ce matin. On peut d'abord parler des individualistes. Chacun veut construire son christianisme à sa manière. Peut-être qu'on se méfie de toute organisation humaine, de toute autorité humaine. Peut-être qu'on a vécu des choses difficiles au sein d'une communauté locale. Peut-être, imagine-t-on, qu'on peut faire partie d'une église virtuelle, sans déclinaison concrète, pratique, locale. Et concrètement, vous avez là une sorte d'anarchisme chrétien. Dans les faits, ça revient à dire « ben moi et rien que moi ». Du bout des lèvres, on rend hommage à l'Église universelle, mais on ne veut pas y participer concrètement. On ne veut n'avoir de compte à rendre à personne. Et on fait le choix de la solitude spirituelle, de la froideur, du gel. Et tout comme il y a des personnes qui sont des individualistes, il y a aussi des communautés locales qui sont individualistes. Elles parlent à tort et à travers de l'indépendance de l'Église locale. Alors que les églises du Nouveau Testament ont de nombreux liens entre elles, qu'elles participent à des projets communs, qu'elles essayent de résoudre ensemble certains problèmes éthiques, moraux, spirituels, théologiques. Du berceau jusqu'à la tombe, les humains ne sont jamais totalement autonomes. Nous dépendons les uns des autres, toujours. Et c'est la même chose pour les églises. Ces églises qui se veulent indépendantes, elles utilisent bien des bibles qui ont été traduites par d'autres, Elles utilisent bien des cantiques qui ont été écrits par d'autres. Ce fonctionnement en réseau, il est donc tout à fait normal, c'est la preuve que le langage de l'indépendance ne tient pas. Il vaut mieux parler d'église responsable. Et Mérin est une église responsable. Elle s'assume, mais elle n'est pas seule. Dans la vision individualiste, il y a pour ainsi dire rien entre l'individu et l'église universelle, ou rien entre une église locale et une église universelle. Et puis un deuxième malentendu avant de conclure. C'est l'autre extrême. On peut parler d'une vision maximaliste de l'église. En tant qu'évangélique, nous pensons peut-être que d'autres églises vont trop loin ou pas assez loin, que d'autres églises sont trop ceci ou trop cela. Puis nous, on fonctionne toujours à plein régime. Chez nous, c'est toujours parfait, on est toujours au top, on se plante jamais. Quand une église refuse toute diversité en son sein, quand elle exige de ses membres une obéissance absolue, quand tout tourne autour d'elle ou autour de son pasteur, on peut dire qu'elle a pris quelque chose de juste, c'est-à-dire que Dieu a voulu l'Église et qu'il lui accorde de l'importance. Mais elle l'a confisquée pour son propre compte. Elle est devenue sectaire, elle est en danger et elle est un danger. Donc nous autres évangéliques, nous ne disons pas, par exemple, que l'Église est la mère de tous les chrétiens. Nous ne serions pas tentés de dire, comme certains l'ont été, qu'elle est une sorte de prolongement de Jésus-Christ sur la terre. Nous ne dirions pas qu'elle est une sorte de sacrement pour l'humanité. Pour nous, ça, ce sont des visions un peu trop exaltées, maximalistes de l'Église. Mais nous disons que l'Église contient bien une part de vérité. Que c'est par l'Église que l'Évangile est annoncé dans le monde. Que c'est bien par un membre de l'Église que j'ai un jour eu une Bible entre les mains, ou que j'ai entendu une prédication, une étude biblique, un groupe de maison qui a changé ma vie. C'est bien dans l'Église que je grandis spirituellement, que j'apprends à prier, que j'apprends à donner, que j'apprends à servir. Et parfois, à force de rejeter une vision maximaliste de l'Église, nous autres évangéliques, nous allons trop loin et nous sous-estimons son importance dans le temps et l'éternité. À Mérin, nous participons donc à des réseaux d'Églises. Nous avons l'Église locale, mais nous croyons à l'Église universelle. Des réseaux d'Églises, la FRE, on en a parlé, la pastorale genevoise, le réseau évangélique, ça, ce sont des relations un peu officielles. Hein. On reçoit des PV, des convocations, tout ça, il faut s'inscrire, c'est un peu officiel. Mais l'Église, la grande Église, c'est plus que ça. Il y a donc des relations fraternelles avec la paroisse protestante de Mérin, avec l'Église catholique, avec des églises en implantation ou des chrétiens en mission. Ça, ce sont des relations fraternelles. Mais l'Église, la grande Église, la belle Église, c'est encore plus que ça. Par exemple, il y a quelques années, nous avons prié pour Asia Bibi. Vous vous souvenez, cette chrétienne pakistanaise, injustement accusée de blasphème, emprisonnée pendant 11 ans, menacée de mort, et puis acquittée en dernière instance. Et aujourd'hui, Asia Bibi, elle est réfugiée au Canada. Elle n'est pas évangélique, Asia Bibi. Elle est catholique. Nous, nous prions pour des chrétiens persécutés en Inde, en Iran, au Nigeria, en Afghanistan, partout dans le monde, sans nous inquiéter de leur étiquette religieuse. Et dans le lot, ben, il y en a plusieurs qui nous ressemblent et puis d'autres qui ont une culture qui n'est pas la nôtre. Mais c'est pour le nom de Christ qu'ils sont brimés, qu'ils sont menacés, qu'ils sont tués. Nous sommes solidaires. Je serai un jour à côté d'eux, à côté d'elles, devant le trône de Christ au ciel. Autant que j'apprenne à les connaître ici-bas, ou au moins à les aimer, ou au moins à prier pour eux. La grande et belle Église du Seigneur, elle se vit donc dans des réseaux officiels, et aussi de façon moins visible avec les chrétiens du monde entier. Nous adorons le Seigneur avec eux. Nous sommes dans une communion spirituelle qui n'a rien d'institutionnel, mais qui est néanmoins réelle. Nous sommes même en communion avec la foule immense qui déjà loue Dieu devant le trône de Dieu. Comment vivre ces dimensions de l'Église? Je termine juste en nous laissant quelques pistes pour vivre concrètement ces différentes dimensions de la belle et grande Église du Seigneur Jésus-Christ. La première piste que je nous laisse, et je pense que nous la vivons assez bien ici, c'est de s'investir dans la prière, c'est de s'investir dans des relations, c'est de s'investir dans des services au sein d'une église locale, la nôtre. Je sais que certains disent « j'aime l'humanité, ce sont les gens que je ne supporte pas », ou plutôt « j'aime l'église du Seigneur, mais ce sont les églises locales que je ne supporte pas ». Mais le monde saura que nous sommes les disciples de Jésus, seulement si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Ensuite, on peut s'intéresser à ce qui se passe hors de notre cercle immédiat. Nous pouvons nous efforcer de mieux connaître, par exemple, les églises de la Frée et de prier pour elles. Nous pouvons prier chez nous pour des personnes, pour des églises que nous connaissons, pour des missionnaires, pour des églises persécutées, pour des églises en implantation. Je ne vais jamais vous imposer de prier pour les églises de Genève, mais loin de moi de pécher contre Dieu en cessant de prier pour elle. Et dans nos cultes, dans nos relations, continuons à valoriser l'Église universelle dont nous faisons partie. Dire que nous louons Dieu avec les multitudes que Dieu a rachetées, c'est nous ouvrir davantage à quelque chose qui nous dépasse. Paul donc, l'apôtre Paul, nous propose simplement de mieux prendre en compte le fait que Dieu manifeste sa gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Si Dieu manifeste sa gloire dans l'Église, posons-nous la question : comment est-ce que moi, je peux mieux aimer l'Église ? Si Dieu y manifeste sa gloire, il faut se poser la question. Amen.
les choses. M'entends? Vous m'entendez là? Oui, très bien. Alors, les choses s'enchaînent bien, comme si ça avait été organisé. Comment s'investir? L'Église, c'est bien d'avoir la vision de l'Église universelle, de savoir qu'on fait partie d'un tout, de penser aussi localement pour que notre vie ait du sens. L'Église locale, c'est aussi une Église qui vit la semaine et pas que le dimanche. Elle doit nous donner du sens dans notre vie, dans ce qu'on vit chaque jour, dans cette société qui change rapidement. On a besoin de s'approprier ces valeurs du Christ et de les comprendre vis-à-vis de ce qu'on vit chaque jour. Et ça, c'est important. Et ce sens-là, ce n'est pas que le dimanche qu'on le trouve, c'est dans l'investissement des différentes activités. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter maintenant les différentes activités qu'il y a dans l'Église et qui permettent justement de vivre notre foi au quotidien, d'échanger ces liens qui sont importants entre nous pour savoir ce qu'on vit dans nos vies et qu'on puisse les partager. Voilà. Donc il y a avant tout l'activité des pasteurs, je ne m'étendrai pas trop parce que je risque de dire des bêtises. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font. Ils sont libres, je ne les vois que tous les 15 jours. Non, vous les voyez suffisamment. Ils ont donc toutes les activités en lien avec l'Église et aussi avec la FRAE. Il y a un pourcentage à la FRAE, notamment dans la communication. Qui est importante. Il y a les visites personnelles, l'accueil, les différents soutiens, aussi une partie administrative, et puis bien sûr la participation au culte, au conseil, pour la bonne vie de l'Église. Et puis ensuite, il y a différents groupes, alors notamment, on va prendre depuis la gauche, notamment tout ce qui touche l'enfance, avec la garderie, donc il y a une garderie en bas, qui permet de mettre vos enfants qui ne sont pas encore scolarisés et qui permet notamment aux familles de pouvoir venir. Il y a aussi les potes du dimanche. Alors ça, c'est les enfants scolarisés jusqu'à 11 ans avec deux groupes, les Lucioles et les Renards, qui font référence à ce célèbre petit journal pour enfants, Le Potager, qui pour la rentrée, son édition numéro 5, est disponible et qui sera remis aux enfants et pour ceux qui sont intéressés. J'en ai quelques-uns parce qu'il y a aussi des choses pour les adultes. L'idée du potager, c'est dans un potager, on plante des graines, on arrose et il y a des plantes qui poussent. Et l'idée de ce petit journal, c'est de créer du lien entre les parents et leurs enfants, entre les grands-parents et leurs petits-enfants, ou des membres de l'Église et les enfants. Ça vous permet aussi peut-être pour les adultes de consulter et de voir qu'il y a des enfants qui ont des anniversaires, on peut penser à eux, on peut prier à eux, pour eux. Et donc c'est super important pour nous ce lien et de voir un petit peu ce qu'ils ont comme activité puisque le potager annonce les prochains thèmes, les prochaines dates des différents dimanches. En tout cas là c'est jusqu'au 14 novembre. Ensuite il y a le caté pour les 12-15 ans. Qui est le vendredi en fin de journée, 17h, voilà, 17h jusqu'à 19h. Vous avez les noms des responsables, si jamais vous voulez aller les voir, vous allez les voir, ou voir directement le pasteur qui connaît tout le monde, donc il saura vous réorienter. Ensuite, il y a cet été, avec quelques responsables, alors j'espère que j'ai remis les noms juste maintenant. C'est parfait, ok, super. Qui ont des camps, des sorties, des rencontres, et puis tous les mercredis, c'est juste, hein, tous les mercredis, ils se voient ici dans un local en bas. Donc dès que vous avez passé 15 ans, vous n'êtes plus au caté, il y a une suite, et vous pouvez aller vers les responsables pour y aller. Ensuite, il y a le fil d'argent pour les moins jeunes. Je ne sais pas à partir de quel âge... Mais dès qu'on commence à ne plus avoir de cheveux, dès qu'on commence à avoir les cheveux gris, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est coordination musique. Vous avez vu ce matin, on a des personnes qui jouent d'instruments, qui chantent, et ça chaque dimanche. Et il y a un tournus, il y a besoin de coordonner tout ça, et ça, il y a besoin de monde et de coordination. Ce n'est pas une mince affaire. Ensuite, il y avait, ça reviendra, on espère. Après le culte, il y avait toujours, on a un petit coin cuisine ici, il y avait le moment du café, c'était bondé dans le foyer à côté. On échangeait, c'était vraiment un temps d'échange qui était super sympa. Donc le Covid est passé par là, ça nous a un petit peu refroidi. Mais tout à l'heure, on va un peu se réchauffer justement, on va profiter du soleil avec un petit apéro. Et puis il y a toute une partie prière, intercession, le dimanche matin avant le culte, et puis des réunions de prière le mardi, une fois par mois. Premier mardi du mois ?
Deuxième
mardi du mois. Voilà. Et puis, troisième. Et puis, on a aussi dans nos locaux la garderie La Framboise, qui était voulue, c'est une garderie indépendante de l'église, mais liée à l'église, puisque l'organe dirigeant est en partie par des membres de l'église, notamment son président ici présent. Et c'est une garderie publique qui se trouve donc au ré inférieur, et puis qui était voulue dès la construction du bâtiment pour créer ce lien avec Mérin. C'était vraiment cette importance d'être ancré localement. Et puis il y a aussi des groupes de maisons qui s'organisent, et là c'est plus des groupes de maisons libres qui s'organisent entre eux, c'est pas structuré par l'église, mais c'est entre eux que ces groupes s'organisent. Et puis là je vais laisser la parole à Cyril et Marie-Léa.
Bonjour. Du coup, oui, donc Cyril, Marie-Léa, ma femme, vous l'avez entendu chanter ce matin. On avait à cœur de proposer un nouveau groupe de partage pour jeunes couples. Et du coup, l'idée, ce serait de développer sa foi basée sur le livre Le mariage de Timothy Keller et Cathy Keller. Le titre, c'est marqué un petit peu plus complexe. Un engagement complexe à vivre avec la sagesse de Dieu. Ce qui nous a fait choisir ce livre. L'idée, c'est de se voir deux fois par mois. La date, elle est à convenir, ce serait possiblement en fin de semaine, à voir en fonction de l'agenda de chacun. Et le lieu, ça peut être soit à l'église, soit chez des personnes. Ça, c'est aussi à définir en fonction des personnes qui seraient intéressées. Voilà, globalement, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, à la fin, ça, c'était prévu. On sera à l'apéritif, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour s'inscrire, et puis en fonction, on trouvera une date pour démarrer tout ça. Merci.
Merci bien. Alors c'est toujours chouette d'avoir des propositions comme ça, spontanées. Donc comme le disait Sylvain tout au début, c'est vraiment une église participative, et puis on est libre de pouvoir proposer des choses, et c'est vraiment ça qui crée une dynamique d'église. Je propose de passer à la slide suivante. Donc bien sûr, toutes ces activités pour voir un petit peu comment elles s'organisent, comment on peut y participer, où est-ce qu'on peut avoir des informations. On a un site internet qui permet d'avoir le calendrier des différentes activités, aller chercher 2-3 informations, les différents contacts. Slide suivante. Et puis il y a aussi, alors vous trouvez sur le site, mais on le trouve aussi en version papier pour ceux qui le désirent, le mémo qui est fait tous les 2 mois, qui permet de vraiment avoir les informations très structurées par date sur les différentes activités de l'Église. Et puis vous avez aussi Facebook, Twitter, où il y a des informations qui sont transmises. Alors, pas que là-dessus, mais vous avez d'autres informations pour ceux qui sont connectés sur ces réseaux. Et puis, ensuite, la slide suivante. Donc, il y a des moyens de communication aussi par email avec différentes adresses sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Et là, il faut venir vers Sylvain. Par exemple, l'Actu Mérin qui permet d'avoir les différentes activités courantes et les événements, et une autre liste qui sont les informations officielles, les colloques. Ensuite, il y a une information sur la prière, les nouvelles personnelles pour la prière. Et puis, il y a une autre adresse où vous pouvez aussi vous inscrire, c'est le coup de pouce, qui est vraiment le côté pratique, hein, échange, vente, vous voulez mettre à disposition de quelqu'un quelque chose, ou vous déménagez, il y a des meubles que vous ne voulez plus, c'est l'adresse sur laquelle on peut communiquer différentes informations qui sont vraiment ici de l'entraide entre personnes. Et puis, il y a aussi différents groupes WhatsApp qui existent, comme pour les familles ou d'autres groupes, où vous pouvez vous renseigner. Là, c'est vraiment moins organisé, c'est plus en allant en contact des gens qu'on découvre petit à petit qu'il y a des groupes WhatsApp qui se sont formés. Et voilà, l'entité externe dont j'ai parlé avant, avec la garderie La Framboise, dans les locaux en dessous. Petit point aussi, ben ça ne sera pas dans les annonces, pour les potes, dimanche prochain, il y a la sortie des potes avec les parents. C'est un soulagement pour les moniteurs. Ça sera au Zévo, rendez-vous à 11h. Vous avez reçu les informations normalement par email, mais pour ceux qui sont peut-être nouveaux, qui n'ont pas accès aux emails et qui ne sont pas sur la liste de diffusion, vous pouvez éventuellement venir vers moi à la fin du culte, ou alors directement, si vous voulez un petit potager, il y a l'adresse de la personne qui s'occupe de tout ça, pour laquelle vous pourrez vous inscrire. C'est bien de s'inscrire pour qu'on puisse savoir un petit peu le nombre de personnes qu'il va y avoir, puisqu'on va prendre en charge le goûter. Donc qu'on puisse acheter suffisamment pour les enfants et pas qu'on se sente mal à l'aise au dernier moment qu'un enfant n'ait pas de sa barre de chocolat. Merci.
Voilà, maintenant c'est les annonces. Et je vais commencer par mercredi. Ce mercredi, on reprend la parole et silence à la chapelle de 18h à 19h. Ça va ? Je m'excusez. Ensuite, je dois vous donner un petit mot de la part de Clémentine. Jeudi 9, c'est le jeûne genevois. Il y aura au Salève louange, intercession et proclamation. Et les personnes qui sont intéressées s'adressent à Clémentine qui a dû partir. Donc, je vais rester là pour donner les coordonnées de Clémentine. Ensuite, le week-end prochain, il y aura à Sainte-Croix la comédie musicale La fabuleuse histoire de Georges Muller, un homme qui avait l'audace de la foi. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées par ça, on s'adresse à Claude Parnigoni, que j'ai vu tout à l'heure, voilà, qui va s'occuper des infos et du covoiturage. Et ensuite, nous aurons Rebecca pour nous parler du caté et Philippe Anchaud.
Bonjour. Je ne sais pas si vous avez réussi à lire, mais moi, j'arrivais presque pas à lire, mais en gros, mon nom était sous l'équipe de caté, du catéchisme, avec Philippe, Joël et Mireille. Cette année, on a le plaisir d'accueillir environ 15 jeunes, tous les deux vendredis, on commence ce vendredi, et on a changé un peu la formule. Alors, on va faire un goûter ensemble. Et pour ça, on aura besoin de votre participant de nous amener un petit goûter tous les vendredis entre 17h et 17h15, genre des biscuits, des gâteaux, pain au chocolat, comme vous voulez, pour nous donner un coup de main. J'ai un petit papier ici pour noter votre nom. Vous pouvez venir me voir, on serait très reconnaissante parce que les jeunes, quand ils vont arriver, ils vont avoir très soif et faim. Alors, si vous pouvez nous aider et donner un coup de main, ce serait très volontiers. Merci.
J'ai bien fait de m'inscrire pour la saison de caté, je sens. Mardi soir, ici à 20h, nous vous proposons une soirée de réflexion. Vous savez, je pense que le peuple suisse est invité à se prononcer lors des votations du 26 septembre prochain, en particulier sur la question dite du mariage ouvert à tous et toutes. Et puis, il nous semblait important de nourrir notre réflexion sur le sujet. Il ne s'agit pas ici de venir donner un mot d'ordre. Je crois que chacun est grand et peut se faire une idée. Mais justement, peut-être pour nourrir notre réflexion, une soirée de réflexion ici, sans mot d'ordre de votation politique, quoi que ce soit, mais un moment où on veut ouvrir l'écriture, on veut réfléchir aux mouvements sociétaux qui nous traversent. Bienvenue à chacun, chacune, de 20h à 21h30 environ. On prendra 45-50 minutes pour un exposé et puis un temps de questions-réponses, de mise en commun dans la deuxième partie de soirée. Donc voilà, bienvenue à chacun, chacune, pour ce temps de réflexion ici même, ce mardi à 20h. Puis, avec Célina, nous démarrerons ensuite, les mardis suivants, les ateliers bibliques. C'est Célina qui démarrera la première rencontre. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur avant la suite de la bénédiction d'or avec l'apéro. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Allez en paix, dans la joie du Seigneur. À bientôt.